pour cette deuxième séance. Et à votre, sur la gauche, vous avez toute une liste de ce que j'appelle les actions d'amour de Dieu. Ne vous désespérez pas, on ne verra pas toute la liste, parce que ce serait une histoire de toute la Bible presque. Mais j'ai mis ça, donc peut-être, si on a le temps, si une de ces choses vous intéresse, ou vous voulez poser une question, je peux traiter ça. Mais voilà, et quand je cherchais dans la Bible les exemples des actions de Dieu qui démontrent son amour, il y a tellement qu'il fallait choisir. Et donc, ce que j'ai choisi, vous avez là, sur cette liste-là, et je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce que j'ai choisi. Okay. Donc, nous allons voir quelques actions de l'Ancien Testament qui témoignent de l'amour de Dieu. Mais avant de faire cela, j'aimerais répéter la définition de l'amour que j'ai donnée tout à l'heure, parce que l'amour de Dieu s'exprime bien dans ce mot grec agapé, qui est un amour qui veut, et je ne peux pas insister là-dessus assez, un amour qui veut le bien-être de l'autre, et qui ainsi prend soin de toujours faire tout ce qui est bien pour l'autre, malgré la réaction ou malgré la condition de l'objet de cet amour. Il y en a, c'est le cas dans ma famille, quand je fais quelque chose pour mes enfants, il y a des choses parfois qu'ils n'aiment pas que je fasse, mais quand même je le fais pour leur bien. Et par la suite, ils vont comprendre cela, mais au début, pour le moment, ce n'est pas évident. Ça peut être aussi la discipline, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est fait par amour, pour corriger des fautes. Bon, voilà. Dans le cas de Dieu, dans son amour, tout ce qu'il fait est en vue du bien-être de l'autre. Et de ce fait, comme j'ai dit aussi, souvent, par le même acte, une personne est bénie tandis qu'une autre est maudite. Et ce n'est pas du tout que Dieu soit capricieux, mais qu'il accorde plutôt ce que l'homme aurait choisi. Dieu a créé l'homme avec ce que les théologiens appellent le libre arbitre, c'est-à-dire le droit ou la capacité de choisir, le libre arbitre. Et Dieu lui-même, il fait le bien. Il veut le bien, et quand un homme choisit le bien, il sera béni. Mais si l'homme choisit le mal, il en subira les conséquences de ce mauvais choix, car Dieu lui accorde ce qu'il a choisi avec les conséquences. Galates 6, verset 7, le premier verset que vous avez sur votre feuille. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Bon, les actions de Dieu montrent son soin de faire le bien pour l'homme. Et rappelons-nous ceci, quand vous lisez la Bible, surtout l'Ancien Testament et même le Nouveau, rappelons-nous que presque tout, sinon tout, de ce qui est révélé, est lié au dessein de Dieu pour amener son Messie dans le monde afin de sauver l'homme de ses péchés. Il y a le verset que nous connaissons tous, presque tout le monde connaît par cœur, Jean 3, 16, où il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et quand on regarde ce passage de près, on se rend compte que c'est dans un contexte de l'Ancien Testament, toujours. Parce que le Christ n'est pas encore donné quand Jésus l'a prononcé. Mais ça fait partie de cette action de Dieu, de son amour, qu'il a prévu le besoin d'un sauveur. Et donc, comme j'ai dit, presque tout ce qu'on trouve dans la Bible est lié à ce dessein pour amener ce sauveur dans le monde. En effet, comme dit l'apôtre Jean au sujet des miracles de Jésus, si on avait tout écrit, le monde même ne peut pas contenir tous les livres qui seront écrits au sujet des miracles de Jésus. Et si la Bible racontait toute l'histoire du monde, tout ce que Dieu a fait, tout ce que les hommes et les femmes ont fait dans le monde, il n'y aurait pas de livre assez grand dans ce monde pour le contenir. Donc, ce que nous avons dans la Bible, ce sont des choses que Dieu a choisi de révéler. Et presque tout ce qu'il a choisi est lié, comme j'ai dit, à ce dessein pour sauver l'homme de ses péchés. Mais la première action de Dieu, j'ai mis sur la feuille, c'est la création du monde, qui est un acte, une action d'amour. Et nous ne trouvons pas ce dessein proprement dit dans cette action de création, mais nous le trouvons, le dessein de Dieu, presque tout de suite après, ou je dirais même lié à la création de Dieu. Et pour que vous soyez rassurés, je crois fermement à la création de Dieu. Je ne crois pas à l'évolution. Je crois que Dieu a créé ce monde et qu'il a fait avec de l'intelligence, qu'il a fait avec de bon ordre, tout cela. Je crois ça fermement. C'est pourquoi j'ai choisi à commencer par la création du monde. Bon, le but, cela dit, le but de l'auteur de la Genèse n'est pas de présenter un récit détaillé de la création. Il ne consacre à cet événement qu'un seul chapitre, Genèse chapitre 1. Il répète un peu dans chapitre 2. Mais ce seul chapitre, chapitre 1, est un simple plan contenant quelques faits fondamentaux à retenir. Par contre, 38 chapitres de la Genèse sont consacrés à l'histoire du peuple choisi, c'est-à-dire les Hébreux ou le peuple juif. C'est consacré à l'histoire de ce peuple comme le véhicule pour amener le Christ dans le monde. Et ainsi de suite, à travers l'Ancien Testament et jusque dans le Nouveau Testament. Bon, ce qui est intéressant quand même dans le récit de la création, c'est comment Dieu a tout prévu pour l'homme, pour que l'homme soit son chef-d'œuvre qui bénéficie de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a créé. Et lorsque nous suivons l'ordre du récit, quand vous lisez, je ne vais pas le faire avec vous maintenant, mais vous lisez le récit de la création dans Genèse chapitre 1, nous trouvons qu'il y a exactement cela, de l'ordre. Il y a une suite de choses. Encore, le but de ce récit n'est pas un récit scientifique, mais simplement un récit du commencement de toute chose. Et rien que je trouve dans ce récit n'est arrivé par hasard, ou rien n'est laissé au hasard. Il y a des raisons pour lesquelles Dieu fait ce qu'il fait. Mais il y a quand même de l'ordre. Il y a de l'ordre, je dirais même un ordre scientifique. Et je veux dire par cela que Dieu, dans son amour pour ce qui est bien, en vue de faire du bien pour l'homme, avait soin aux détails. Ce n'était pas par hasard, par exemple, que la lumière soit créée en premier, car tout dépend de la lumière. Ce n'était qu'au troisième jour, selon le récit, que Dieu a créé la verdure et les arbres qui ont besoin de la photosynthèse pour vivre et pour produire des fruits. La lumière existait déjà lorsque le quatrième jour de la création, Dieu a fait des astres, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, pour gouverner le jour et la nuit. Tous ceux qui font du jardinage, et moi je fais beaucoup de jardinage, j'aime ça, j'étais paysan, j'étais fermier si vous voulez, avant de venir en France. Et tous ceux qui aiment les plantes dans la maison ou dans les appartements, ou tout paysan qui veut des récoltes abondantes, savent que les plantes, pour bien produire, ont besoin d'un temps de lumière et d'un temps de ténèbres, c'est-à-dire de jour et de nuit. Une plante qui a que la lumière, ça pousse vite, c'est vrai, et ça donne des fruits, c'est vrai, mais la plante se fatigue, et les fruits ne sont pas aussi bons. C'est ce que font beaucoup de ceux qui, les légumes par exemple, pour que ce soit bien vite dans le marché. Mais il y a littéralement des centaines d'articles écrits par les experts sur les effets de la pleine lune par exemple, ou des nombres d'heures de lumière dans la journée par rapport aux plantes. Je dis tout cela pour dire, parce que c'est une passion avec moi, le jardinage, pas autant que ma femme, mais pour dire que l'ordre de la création suivait un plan. Dieu avait un plan. Au moment bien choisi, Lorsque tout était prêt, le sixième jour de la création, Dieu a créé l'homme, comme j'ai dit, son chef-d'œuvre, créé à son image. Bon, c'est tout ce que je vais dire sur la création, mais je crois que même là, on voit l'amour de Dieu pour ses créatures. Mais cela n'a pas pris longtemps pour que les choses se gâchent, n'est-ce pas? Dieu a tout fait bien, il en a témoigné lui-même, par exemple en Genèse 1, verset 31, après la fin de la création, le texte dit, Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce, alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Le problème est que le péché est entré dans le monde, et toutes les actions de Dieu, toutes les actions d'amour de Dieu, toutes ces actions de justice maintenant, sont liées d'une manière ou d'une autre au péché. Et comment le contrarier, comment le contrecarrer et le remédier. Rappelez-vous que j'ai dit que presque tout, sinon tout, dans la Bible est lié à cela. Bon, rappelez-vous aussi que j'ai dit que les 38 chapitres de Genèse et les livres qui suivent, sont consacrés à l'histoire du peuple choisi, les Hébreux, qui sont des descendants d'Abraham. Et on fait sa connaissance au chapitre, à la fin du chapitre 11, et surtout à partir du chapitre 12 de la Genèse. La Genèse et tous les cinq livres de ce que nous appelons la Pentateuque, c'est-à-dire les cinq livres de la loi, décrivent donc le péché de l'homme et les premières étapes de sa rédemption, par le moyen d'une alliance divine conclue avec une nation choisie. Et comme Dieu a bien dit à Moïse, ce n'est pas parce que vous étiez un peuple nombreux, parce que vous étiez un peuple puissant, parce que vous étiez mieux que les autres, c'est parce que j'avais besoin de quelqu'un pour amener mon Christ dans le monde. Il n'a pas dit la dernière phrase, amener mon Christ, mais c'est parce que je vous ai choisi, c'est tout. Il n'y avait pas une raison pour choisir les Juifs ou les Hébreux, sauf qu'il avait fait des promesses à Abraham, que nous allons voir. Bref, dans la Bible, nous sommes confrontés tout de suite, à partir du chapitre 3, par le fait que dans son amour, et puisqu'il est amour, Dieu n'est pas resté les bras croisés quand les mauvaises choses sont arrivées dans son monde. Et la première indice de l'intention de Dieu nous est donnée en Genèse chapitre 3, le verset 15, où Dieu s'adresse au serpent qui avait tenté Ève et séduit Ève. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Et c'est par la suite, quand on lit à travers la Bible, après la venue de ce descendant de la femme, que dans les écrits de Paul, nous apprenons que Dieu, dans sa bienveillance, avait déjà prévu le besoin de ce sauveur. C'est-à-dire, avant d'avoir dit cela au serpent ou à la femme au sujet de ce descendant, Dieu avait déjà prévu cela. Pourquoi est-ce que je dis cela? Bon, c'est-à-dire, avant la création, avant que notre destin commence, c'est comme ça que je définis le mot prédestiné, avant que notre destin commence, Dieu a prédestiné notre pardon. Éphésiens 1, versets 3 à 5, que vous avez. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Et moi, j'ai souligné les mots avant la création du monde, dans son amour et prédestiné et bienveillant. Vous voyez l'amour. L'action de Dieu, il ne reste pas resté les bras croisés, mais il fait quelque chose pour l'homme. Deux démonstrations donc de l'amour de Dieu déjà, sans son attention aux détails dans la création, pour que tout soit bien pour l'homme. Et dès que l'homme est péché, même avant que l'homme ait péché, Dieu a mis en œuvre son dessein pour le sauver. Bon, Il y a deux choses maintenant que j'aimerais dire, seulement deux choses que j'aimerais dire au sujet du déluge, qui est le troisième dans la liste, comme action de l'amour de Dieu. Première chose à dire au sujet du déluge, c'est que le déluge est lié étroitement à la sainteté de Dieu, aussi bien que son amour, ou à sa justice, comme on définit la sainteté. Et ainsi, et donc, à cause du péché, par exemple, Dieu devait agir. Il a vu que le péché remplissait la terre, que les hommes ne pensaient qu'à faire du mal, les uns aux autres, tout cela. Donc Dieu, il devait agir. Mais à cause de la droiture de Noé, dans son amour, Dieu voulait épargner Noé et la race humaine à travers lui. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure était vrai aussi dans le cas du déluge. Par le même acte, Dieu a sauvé une personne et en a condamné une autre. Dans ce cas, 8 personnes ont été sauvées par la même chose. Les autres ont été anéanties. Mais c'était un choix, parce que Dieu avait donné l'occasion à tous les hommes, toutes les femmes, à cette époque, de se repentir. Il n'y avait que Noé qui avait la foi et qui a obéi à Dieu. Ils ont fait le choix, et Dieu a accordé le choix. Voilà sa justice, sa sainteté et son amour. Aussi, deuxième chose, le déluge est aussi lié au choix d'une famille comme l'instrument de Dieu pour amener son Christ dans le monde. Noé avait 3 fils, Sem et Japheth. Et il est de ces 3 fils que tous les habitants de la terre descendent. Nous sommes tous descendants de ces 3 hommes-là. Et pour notre étude, il faut retenir que Dieu a fait une alliance avec Noé d'abord. Ça, c'est chapitre 6 de la Genèse, verset 18. Et que de ces 3 fils, Sem est devenu le père des Sémites. Voilà le mot Sémite, d'où ça vient. Dont Abraham était un descendant. Lui qui est devenu le père de la nation juive. Donc déjà, dans cette famille-là, on voit le choix de Dieu. Comment Dieu fait des choses pour que son dessein soit accompli. Bon, dans tous les exemples que nous verrons, pas seulement rencontrons-nous l'amour de Dieu, et on voit ceci surtout dans le déluge et d'autres aussi, mais pas seulement rencontrons-nous l'amour de Dieu, mais nous rencontrons aussi sa souveraineté. Sa souveraineté. Et ceci est très important à retenir au sujet de la souveraineté de Dieu. Puisqu'il est souverain et puisqu'il est le Tout-Puissant, Dieu, cela veut dire que Dieu fait ce qu'il veut. Charles a déjà traité cela dans la première étude. Mais, et ceci est très important aussi, Dieu fait toujours ce qu'il veut parce qu'il est souverain, il est le Tout-Puissant, mais il agit toujours avec bienveillance. C'est-à-dire en vue du bien des personnes. Dans les cas des choix d'Abraham, d'Isaac, Jacob et de Judas, donc le quatrième exemple dans la liste, comme chef de famille du peuple de Dieu, nous avons 4 exemples de ce choix souverain de Dieu, toujours lié à son amour. Bon, je pose la question, qu'est-ce qui a fait d'Abraham un homme exceptionnel? Pourquoi Dieu l'a-t-il choisi Abraham pour être le père de la nation hébraïque, les Hébreux, les Juifs? Lors de la première fois que Dieu lui a parlé, il n'y a rien de significatif pour le distinguer d'Abraham des autres hommes. Lisez versets 1 et 2 de Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je ne trouve pas vraiment quelque chose d'exceptionnel dans la personne d'Abraham ici, sauf qu'on sait par la suite qu'il a obéi, qu'il est parti. C'est dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, que nous trouvons ce qui était exceptionnel avec Abraham. C'est au chapitre 11, versets 8 et 9. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme un pays étranger, comme on a un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob héritiers avec lui de la même promesse. Et la chose qui a fait d'Abraham un homme exceptionnel, c'était sa foi. C'est par la foi, ou c'est sa foi qui le distingue d'autres hommes, c'est par la foi qu'il a obéi, dit le verset 8, qu'il est parti. Il ne savait même pas où aller. Mais il est parti parce que Dieu a dit « pars ». C'était la même chose pour Isaac et Jacob, Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Même qu'avec Abraham, ils ont cru en Dieu. Ils n'ont pas vu, n'ont pas eu les choses promises, mais ils croyaient en Dieu quand même, parce que c'est arrivé après pour leurs descendants. Par contre, au sujet du choix de Judas comme chef de la tribu royale, parce que c'est de Judas qui est descendu les rois comme David et Salomon, etc., il n'y a rien qui est dit en sa faveur dans la Bible. Quand on cherche pour savoir un peu sur Judas, on ne trouve rien de bien. Mais la seule chose qu'on trouve, c'est que Dieu l'a choisi. Et c'est tout. Dieu l'a choisi, pourquoi? Afin d'accomplir son dessein, parce que Dieu avait son dessein. Et on va voir par la suite pourquoi Dieu l'a choisi. Bon, la question est, pourquoi Dieu a-t-il choisi ces hommes? Il les a choisis parce qu'il est le souverain et parce qu'il est omniscient, c'est-à-dire il sait tout, il savait ce qu'il voulait faire, ce qui devait arriver, et il les a choisis souverainement en vue de ces choses. Dieu, dans son amour et sachant tout, il avait un plan. Son dessein, dont nous avons déjà parlé, et qu'il avait établi avant la création du monde. Bon, une partie de l'amour de Dieu, c'est sa patience. Et dans sa patience, comme a dit l'apôtre Pierre, en 2 Pierre 3, verset 9, Dieu veut que tous arrivent à la repentance. C'est-à-dire, il veut que tous arrivent au salut. Et pour que tous les hommes arrivent au salut, il est patient. Patiemment, donc, depuis avant la création du monde, Dieu œuvrait pour le salut des hommes égarés de lui par le péché. Voilà la patience de Dieu. Et une partie de cette œuvre patiente de Dieu était de choisir les personnes clés et, afin d'amener à bon terme son projet. Certaines de ces personnes étaient de bon caractère, ils avaient de bonnes mœurs, plein de foi comme Abraham. D'autres étaient comme Judas, qui n'était pas un homme de tellement bon caractère ou de bonne mœurs. En effet, quand vous lisez son histoire, c'est un homme de plutôt mauvaise mœurs, qui n'était pas de bon caractère. Mais Dieu les a choisis, quand même, à cause de leur importance pour son dessein. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour de Dieu voit à long terme, c'est un amour de longue haleine. Et parfois, il y a des choses qui ne semblent pas bien ce que Dieu fait, mais Dieu sait ce qu'il fait. Et il faut voir ce qui est plus loin. Il ne faut pas voir juste ce qui est temporaire, qui est devant nos yeux. Bref, Dieu, dans sa souveraineté, se sert de n'importe qui afin d'accomplir son dessein. Là encore, on a plein d'exemples dans la Bible de comment Dieu s'est servi de n'importe qui, le pharaon d'Égypte, par exemple, et parmi d'autres. Mais derrière ces choix, qui voient à long terme un amour que j'appelle l'amour de longue haleine, où Dieu veut le bien pour ces créatures humaines qui ont tellement besoin de son aide. Et ainsi, il travaille à cette fin. Bon, avec chacun de ces choix, il faut aussi remarquer qu'il y avait une promesse, ou parfois des promesses, toujours en vue du bien-être de l'homme à long terme. Avec le choix d'Abraham, il y avait la promesse, chapitre 12, verset 2, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Cela se trouve en Genèse 12:2. Mais ce n'est qu'en Genèse 22, le verset 18, que Dieu devient plus spécifique. Et là, il dit, « Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance. » Et là, la descendance est au singulier. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, en Galates chapitre 3, le verset 16, a expliqué que cette descendance au singulier était Jésus. Donc, même dans les promesses faites à Abraham, les experts croient qu'Abraham a vécu entre 1700, 1900, même peut-être 2200 ans avant Jésus-Christ. Donc, depuis cette époque-là jusqu'à notre époque, ou jusqu'à l'époque de Jésus, pardon, Dieu avait mis en œuvre son dessein et ça s'accomplissait pour arriver au Christ. Bref, la promesse faite à Abraham est que toute personne, en toute nation, pourra être bénie par le sacrifice de Jésus-Christ, si elle a la foi comme Abraham. Ça, c'est Galates 3, verset 8. Dieu, parce qu'il aime, donc il a prévu tout cela. Ainsi, par ce même dessein, cette même promesse, ceux qui, par la foi, l'acceptent, seront bénis. Ceux qui le refusent, seront accordés ce qu'ils ont choisi, c'est-à-dire rien. Mais Dieu, qui est amour, ne veut pas qu'il n'ait rien. Et donc, Dieu, dans son amour, il ne les force pas à accepter ce qu'ils ne veulent pas, mais il fait tout son possible, tout ce qu'il peut pour que les hommes acceptent ce qu'il veut leur donner. Et c'est pourquoi, à travers les siècles, on a eu des prophètes, on a eu des écrits de la Bible, pourquoi il y a des hommes et des femmes d'exemple pour les autres, pour nous attirer vers Dieu. Dieu fait tout son possible. Bon, le cinquième exemple d'une action de Dieu qui démontre son amour, et comment Dieu s'est servi de Joseph pour sauver sa famille et ainsi toute une nation. C'est l'une de mes histoires préférées de la Bible, Joseph. Je trouve beaucoup de choses bien dans cet homme. Lorsque nous étudions son histoire, nous sommes frappés par toutes les épreuves qu'il a dû subir. Mais aussi, nous sommes frappés par sa foi et par le fait qu'il ne se décourageait pas. Il me semble, je ne trouve jamais de découragement dans l'histoire de Joseph. Vendu en esclave par ses frères. N'est-ce pas, c'est le sujet de ce film qui est sorti, Le Prince d'Égypte, c'est ça? C'est aussi le sujet de... C'est Moïse, ok, d'accord, j'ai pas vu le film, d'accord. Bon, oubliez la publicité pour le film. Ok. Où étais-je? Bon, il était vendu par ses frères en esclavage, Joseph. Dommage, parce que ce serait une belle histoire aussi. Faussement accusé par la femme de Potiphar, celui qui était son maître, il a été jeté en prison. Il a été oublié en prison par ceux qui l'avaient aidé. Mais en tout cela, au lieu d'être découragé jusqu'à baisser les bras, à abandonner tout ça et à maudire Dieu, il a toujours fait de son mieux. Toujours de son mieux, jusqu'à être apprécié et estimé par ses maîtres, même en prison. De plus, il a toujours honoré Dieu dans tout cela. Comment est-ce que je sais qu'il a toujours honoré Dieu? Bon, j'ai relevé quelques passages à son sujet. À cause de ce que ses maîtres ont vu ou voyaient en lui, et à cause de ce qu'ils avaient dit de Dieu, c'est pourquoi je dis qu'il a toujours honoré Dieu. Genèse 39, verset 3. Son maître, c'est-à-dire Potiphar, vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Genèse 39, verset 23. Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel faisait réussir ce qu'il faisait. Chapitre 41, verset 16. Joseph répondit au Pharaon. Ce n'est pas moi. Bon, le Pharaon croyait que l'interprétation de ses rêves venait de Joseph. Il a dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Et puis le verset 38. Et le Pharaon leur dit, pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Joseph, était un homme de Dieu dont Dieu s'est servi pour accomplir un but. Quel but? Joseph l'a dit lui-même à ses frères, selon Genèse 50, verset 20,